sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde, bon lundi et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et je salue, comme à l'accoutumée, son président directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Prêt pour une autre belle émission?
Oui, assurément.
Et on a un invité qu'on va présenter dans quelques instants avec un sujet du jour. Mais je tiens d'abord à rappeler que pour transmettre vos questions, il suffit d'aller tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et de cliquer sur « Poser vos questions » ou sinon par texto ou aussi par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. Donc, avant de présenter notre invité, Donald, on va garder notre bonne habitude de revenir sur les sujets d'actualité. Et l'actualité a été quand même généreuse au cours des derniers jours.
Effectivement.
Premier sujet, évidemment, inévitable, les tarifs douaniers. Entre autres, on pense à ces 25 % sur l'aluminium qui s'en vient peut-être après-demain, s'il n'y a pas de changement. Mais bon, tarifs douaniers, à chaque fois qu'on a ces nouvelles-là avec nos voisins du Sud, au niveau de la Société du Parc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus cette semaine?
Bien, tu sais, de notre côté, on ne fait pas nécessairement, nous, directement affaire avec les Américains, mais les entreprises du Parc, c'est sûr que c'est jamais intéressant, cette incertitude-là. Mais peut-être rappeler, les gens ont entendu ça la semaine passée, mais le ministre Fréchette a annoncé différents programmes. Une première portion, c'est des liquidités, donc des entreprises qui auraient besoin de soutien financier pour une certaine période. Le gouvernement va être là pour tenter de les aider. Il y a un autre axe qui est la productivité. Donc, productivité, ce n'est pas que ça, mais ça peut être d'automatiser certaines portions de procédés. Donc, des entreprises qui auraient besoin d'investir pour automatiser davantage. Et il y a aussi un bout de soutien aux gens qui voudraient explorer d'autres leviers ou d'autres lignes d'exportation. Donc, le gouvernement essaie de se positionner pour tenter d'assister les entreprises. Fait que je trouvais ça quand même bien. Évidemment, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il n'y en ait pas de tarifs, mais tout porte à croire que dès demain ou dès mercredi, il y en aura. Ce qui est difficile, c'est que c'est imprévisible. Tout le monde, tout le monde suit l'actualité. Tout le monde voit que ce qui est constant, c'est l'inconstance, là. Donc... C'est un peu dur à suivre.
Et ça change d'heure en heure.
Oui, effectivement. Donc,
mais aussi, à travers tout ça, malgré les soubresauts américains et nord-américains, il y a quand même des bonnes nouvelles au cours des derniers jours. Une transaction impliquant Rio Tinto qui a de l'impact par rapport à Nemaska Lithium.
Oui, c'était sorti dans les médias à l'automne de mémoire. Là, c'est Rio Tinto Alcan qui avait une offre d'achat envers Arcadium. Arcadium qui possède 50 % Nemaska Lithium. Pour nous, c'est un bon signal. Hein. Rio Tinto, c'est très solide. Ils sont déjà à Bécancour via leur participation dans l'OBI. Ils sont minoritaires à l'OBI, mais ils sont déjà dans la région. Fait que pour nous, c'est un bon signal. C'est une entreprise détenue principalement par des capitaux Angleterre et puis australiens. Donc, pour nous, c'est vraiment un signal intéressant. Puis de voir un joueur comme ça qui s'implique dans la filière batterie québécoise, c'est un bon signal.
En parlant de signal, il y a eu un faux signal cette fois-là avec Alubar Métaux la semaine dernière.
Ben oui. Écoute, les demandes médias sont arrivées très, très tôt le matin. Tout le monde cherchait à comprendre ce qui arrivait avec Alubar. La confirmation qu'on a eue de l'entreprise elle-même, c'est que c'est un faux signal. Donc, des fois, tu sais, à Noël, il y a le jeu du téléphone, hein, puis à la fin, ça finit tout croche. Donc, il y a comme eu une déviation peut-être dans le message à un moment ou un autre, mais Alubar nous confirmait que c'est un faux signal. Et bon. Puis... en espérant qu'ils réussissent à naviguer à travers tout ça, parce qu'il y a quand même un peu plus d'impact pour eux que pour des plus gros joueurs, donc en espérant que les tarifs leur fassent pas trop mal à court terme.
Il y a aussi EcoPro Innovation, parce que bon, en parlant d'EcoPro, rappelons à nos auditeurs et auditrices que le 3 mars dernier, on recevait Sang Young Ho d'EcoPro BM. D'ailleurs, on peut réécouter cet épisode 21 sur le site via.fm dans le parc en 30 minutes. Mais donc, EcoPro Innovation... il y a un projet, puis ça implique Hydro-Québec, le centre de recherche à Shawinigan. Peux-tu nous en parler davantage?
Oui, tu sais, dans le fond, ce que j'aimerais amener, c'est qu'il y a des trucs qui ont passé sous le radar. Donc, puis peut-être rappeler aux auditeurs, ceux qui ont écouté l'émission avec Seng Young la semaine passée, puis bon, nous, il fallait traduire tout ça, ça fait que c'était un petit peu plus inconfortable pour moi en tout cas. Mais ce que Seng Young a amené, c'est que, bon, il y a des gens qui se questionnent, l'usine va-tu être terminée? Mais ce que Seng Young nous a dit la semaine passée, c'est qu'il veut avoir un circuit fermé. Donc, non seulement ils veulent terminer cette usine-là, mais ils veulent traiter du lithium, ils veulent faire du recyclage, ils veulent faire des matériaux précurseurs d'anode aussi. Donc, ça a peut-être passé sous le radar. Je ne suis pas sûr que les auditeurs ont capté ça la semaine dernière. Fait que donc, moi, je trouve que c'est un bon signal. Et la semaine dernière, puis ça a passé sous le radar dans le sens qu'il n'y a pas de médias qui l'ont attrapé encore. Mais sur LinkedIn, ça a été annoncé qu'Hydro-Québec, donc le Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie d'Hydro-Québec, ont aussi une entente avec EcoPro Innovation pour faire de la recherche sur les matériaux d'anode de nouvelle génération. Et puis, ça implique un investissement quand même substantiel d'une vingtaine de millions à Shawinigan pour une genre de ligne de production en plus laboratoire, pas grande échelle, mais c'est un autre bon signal. Donc, ça a passé sous le radar. C'est sûr que des fois, puis c'est peut-être mon côté PDG de la SPIB, des fois, je trouve que les médias attrapent vite
des mauvaises nouvelles.
Ce qui va pas bien, la roue qui grince, mais quand il y a des bonnes nouvelles, ça passe plus sous le radar. Et puis, moi, je trouvais ça un bon signal parce qu'il faut comprendre qu'une entreprise qui veut construire une usine au Québec ou à Bécancourt, on trouve que c'est une bonne nouvelle. Puis toujours quand c'est des projets porteurs comme ça, mais quand l'entreprise veut aussi s'enraciner puis faire des partenariats pour de la recherche, c'est une excellente nouvelle. Donc, on a plus de chances que tout ça prenne racine et puis que l'usine qu'ils vont construire va toujours être à l'affût des nouvelles technologies s'ils prennent racine aussi avec de la recherche.
Ça, c'est le genre de nouvelles, quand j'étais journaliste, que j'aimais fouiller justement pour mettre en valeur justement les bonnes nouvelles dans la région, parce qu'on en a besoin et on a besoin de parler des bonnes nouvelles.
Oui, en tout cas, puis pour l'instant, c'est passé sous le radar, donc puis l'idée, c'est pas de se péter les bretelles ça, mais les gens de Bécancourt, on souhaite les informer le mieux possible sur ce qui se passe dans leur cours. Et c'est une bonne nouvelle, bien que c'est avec Hydro-Québec le partenariat, puis que le premier investissement pour le laboratoire serait à Shawinigan. C'est pas grave, c'est dans la région, puis ça fait partie du territoire Mauricie, centre du Québec.
Donc, vous l'aurez appris au parc en 30 minutes, cette bonne nouvelle. Et peut-être avant d'aller avec notre invité du jour, peut-être un dernier retour sur l'actualité. Il y a quand même un candidat à la mairie de Bécancourt, Pascal Blondin, qui a fait son annonce officielle récemment, puis ça nous ouvrait la porte à poser la question, Donald. Il y a une campagne municipale qui se dessine, même fédérale bientôt, mais municipale. Lorsqu'on parle de politique ou de campagne municipale à Bécancourt, la position de la SPIB là-dedans?
Bien, la position de la SPIB, c'est justement que la SPIB n'a jamais pris position. Donc, il y a des élections. Parfois, il y a un, deux, trois candidats, candidates. Et puis, ça va demeurer la même chose pour cette campagne-ci et les campagnes futures. Donc, évidemment, on se réjouit que les citoyens aient un choix, des choix devant eux, mais de l'autre côté, la SPIB ne prendra pas position. On laisse aller les candidats, puis ça sera aux citoyens à faire leur choix basé sur leur priorité ou leur point de vue. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, mais je ne pourrais pas commenter les trucs et puis prendre position. Ce serait pas adéquat de notre part.
Ça a le mérite d'être clair.
Ouais.
Et donc, on est vraiment heureux d'arriver maintenant à notre invité. Je vais te laisser nous le présenter, Donald.
Ben oui, Louis-Marc Bourgoin, directeur général de l'entreprise Gestion 3LB en Fouibec. Donc, bonjour Louis-Marc, bienvenue.
Bonjour Donald. Bonjour. Oui.
Donc, Louis-Marc dirige une des entreprises qui a des services ou des activités dans le parc. Ça fait partie de la ligne de tenter de mettre en valeur et d'expliquer différents trucs, différentes entreprises qui sont actives dans le parc. Fait que donc, c'est dans cette lignée-là que Louis-Marc est avec nous aujourd'hui.
Mais c'est pour ça qu'on aimerait savoir justement, Louis-Marc, l'histoire, un petit peu l'historique de l'entreprise. Puis démystifier en Fouibec, Gestion 3LB. Alors, je te laisse aller là-dessus.
Bon, excellent. En Fouibec et Gestion 3LB, c'est des entreprises qui sont spécialisées dans la gestion des matières résiduelles. Qu'on parle d'élimination, de recyclage, de valorisation, de transformation de ces matières-là. Le tout a vu lieu au début des années 80, 82 en fait, avec Yvon Lemay et Simone Bourgoin. Vous comprenez qu'il y a une petite histoire de famille en arrière de ça. En 82, qui était de l'élimination de DMS, de matériaux solides, à l'intérieur de sablières. Yvon et Simone exploitaient des sablières à l'époque, puis en fin de vie, des sablières, c'était la façon de faire souvent de combler l'empreinte sable par des résidus. On est dans Fouibec, toujours jusque dans le milieu des années 80, il s'est ajouté au matériaux. Quand je parle d'un matériau sec, on parle des matériaux de construction surtout. un petit peu de l'industrie, là, ce qui s'apparente beaucoup aux matières de la construction. Au milieu des années 80, il s'est ajouté dans le portefeuille d'activité de l'entreprise la réception de bouts de papetière où on a entreposé pendant plusieurs années, et on le fait encore, ces résidus-là. Des résidus d'industrie, puis ce qu'on appelait à l'époque là, des cellules de sécurité accrues qui ressemblent beaucoup aujourd'hui à des résidus industriels. Au milieu des années 90, il y a eu un agrandissement de cette activité-là. Je parle des matières résiduelles de l'industrie. Puis c'est là un peu que le recyclage a commencé à entrer. C'était le début pour nous, le recyclage, la valorisation. Le bois a été la première matière où on a commencé à recycler sur les lieux d'élimination. Par la suite, il est venu la collecte. Là. T'sais, vous voyez aujourd'hui les camions, les conteneurs, c'est probablement ce que les gens retiennent le plus, là, des belles boîtes rouges en Fouillebec. Puis tout ça apporte à notre centre de tri. À l'époque, c'était un centre de tri de première génération, donc on était sur une plateforme de béton, puis le tri se faisait de cette façon-là. Il y avait les métaux et le bois qui étaient en grande partie valorisés. Dans les années 2000, la réglementation se met en place. La cellule sécurité accrue commence à faire une distinction avec les sols contaminés, puis les matières résiduelles. Les sols sont devenus un règlement. Nous avons beaucoup innové dans la construction de ces cellules-là, l'élimination. Puis dans les années de milieu 2000, autour de 2005, on a même mis une plateforme de traitement de sols contaminés avec des bactéries. Puis c'est rien de tout est biologique. L'ensemencement, un peu de nutriments à l'intérieur de tout ça pour permettre la flore bactérienne, en fait, de se développer pour le traitement de ces sols-là. Fin 2009, le règlement sur les lieux à sécurité accrue a pris fin. C'est ce qui a commencé, dans notre tête, à réfléchir de comment on pourrait continuer nos activités de cette façon-là. Puis, Gestion 3LB est venue au monde en 2010. D'abord avec l'acquisition des terrains de Norsk Hydro à l'époque, qui borde la route 261. À cette époque-là, on a repris les activités de Norsk Hydro. Fait que c'était le dernier endroit où Norsk Hydro était au Québec. On a repris tous les passifs environnementaux. En fait, c'est le suivi des cellules qui étaient en place pour permettre la construction du lieu qui a pris activité en 2015. Mm-hmm. On a aussi, en 2019, fait un BAP, toujours sur les lieux de gestion 3LB dans le parc industriel, qui, lui, était pour les lieux d'enfouissement de sol contaminés. Permettre nos activités diminuer l'espace, en fait, en Fouillebec, à Saint-Grégoire, commencer à diminuer. Puis pour continuer nos activités de traitement, le traitement se fait toujours à Saint-Grégoire, puis l'élimination est à Bécancour aujourd'hui.
Donc, dans le parc industriel, il y a quand même une sorte de récupération de terrain que Gestion 3LB a permis.
C'est sûr qu'on va arriver sur le projet peu plus court terme que Louis-Marc pousse après la pause, mais assurément, il y a comme des terrains qui avaient déjà une vocation, puis l'économie circulaire prend de plus en plus de place, donc c'est pour ça que l'enfouissement type de l'époque a migré vers vraiment tenter de récupérer le plus possible de trucs à la source avant de stocker, mais même le stockage, puis Louis-Marc va nous en parler, où est-ce qu'on peut avoir un processus qui est réversible aujourd'hui? Là.
Donc, ça nous a mis l'eau à la bouche pour savoir quel est ce projet dont on parle et dont on va parler. Donc, avant de se rendre à la pause, on rappelle aux gens de nous écrire, de poser vos questions et de nous téléphoner donc via .fm, l'onglet Le Parc en 30 minutes, où on clique sur « Poser vos questions ». 819-519-9050, 819-519-9050, texto, téléphone, posez vos questions. On a avec nous Louis-Marc Bourgoin de Gestion 3LB en Fouillebec.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes de retour avec notre invité du jour, Louis-Marc Bourgoin de Gestion 3LB en Fouibec. Donc, on a démystifié les choses au début. Et il y a aussi, évidemment, Donald Olivier de la Société du Parc. Donc, Louis-Marc, on peut poursuivre notre discussion. Il y a un certain Valgo, une certaine compagnie Valgo qui est arrivée dans le décor en 2022. Bon, de quoi s'agit-il? C'est quoi l'implication? Qu'est-ce qui en a découlé?
Oui, c'est ça. Ça va quand même vite. Je m'excuse, j'avais pas eu le temps de m'y rendre tantôt.
C'est bon.
C'est résumé 40 ans, un peu plus de 40 ans en quelques minutes. Valgo est une entreprise française que nous avons eu des discussions au début des années 2021, je pense, la première rencontre que nous avons eue. Puis Valgo, c'est ça. Sont une entreprise très... Ils sont spécialisés dans les traitements de l'amiante et de la valorisation de sites, toute la dépollution de sites pour permettre la revente, si on veut, d'un site ou la réutilisation par son propriétaire. Puis ils sont propriétaires de beaucoup de technologies au niveau de la réhabilitation et de façon de faire aujourd'hui.
Donc, Valgo est propriétaire. Comment c'est quoi?
Oui, c'est ça. Bien, au début, on voulait voir les technologies qu'on pouvait acquérir, puis jusque dans nos discussions, aller jusqu'à Valgo prenne une partie importante de l'actionnariat d'Enfouibec et de gestion 3LB. Je suis encore dans l'actionnariat, mm-hmm. ainsi que ma cousine. C'est vraiment une entreprise familiale. On avait rencontré François Boucher à l'époque, qui lui aussi, c'était une entreprise... avec les mêmes valeurs, tu sais, toujours
donc, il y a
très important.
Il y a encore une fibre locale malgré l'acquisition.
Oui, beaucoup. Okay, beaucoup, 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 beaucoup. On s'échange des services, je dis des services, on mm-hmm. s'échange, je pense, à un de nos ingénieurs civils qui a travaillé sur l'élaboration d'un lieu d'élimination et de tri et recyclage au Maroc. Finalement, on n'a pas eu le projet, mais quand même, là, il y a du partage de connaissances de part et d'autre.
Là, ça nous amène à un projet qui est sur la table. Puis vous avez été d'ailleurs dans les médias récemment par rapport à ce projet-là, même une rencontre citoyenne là-dessus. De quoi s'agit-il, un beau projet qui s'en vient? Là?
Oui, effectivement, c'est un beau projet innovant avec toutes les belles usines et les technologies qui s'en viennent à l'intérieur du parc industriel. Dans nos premières discussions, on avait eu des approches. Certaines avaient certaines quantités de résidus.
On parle de la filière batterie.
On parle de la filière batterie, oui, beaucoup. Mm-hmm. Ce qui a initié le projet dont on parle, nous, à l'interne, on l'appelle le projet GCB pour gestion circulaire Bécancour. En fait, ce qui est magnifique avec ces projets-là, c'est qu'on sait que la plupart des résidus produits peuvent être valorisés. Quand on connaît quand on connaît ça, on ne peut pas dire, bon, on va... Ce qui peut... En fait, là où on veut se positionner à l'intérieur de l'écosystème, c'est vraiment être entre le producteur et l'utilisateur. Comme mm-hmm. si les matières peuvent être valorisées, est-ce que le producteur sera au même moment prêt avec celui qui va récupérer la matière? Ce qu'on voulait mettre en place, notre projet, c'est d'avoir un lieu où on peut stocker de façon temporaire, de façon organisée, sécuritaire, les matières pour pouvoir permettre la récupération de la matière. Qu'on parle de 5, 10 ans, on parle sur les lieux, même une usine, une mini-usine pour en sachet, pour permettre de garder les propriétés des matières, pour permettre la valorisation.
Donc, on en est à l'étape... préparation de plein de vie où on soumet le projet ou vous en êtes où dans votre échéancier?
Le projet est très avancé, si on veut, au niveau du design. Le design est trouvé à, je dirais, à 90% la façon de faire. Nous sommes en communication avec le ministère de l'Environnement pour l'acquisition des certificats d'autorisation. Ça fait déjà plusieurs années. Le sujet n'est pas assujetti aux procédures du BAP par plusieurs technicalités, dont des produits uniques d'une usine.
Comment à l'ASPE, on accueille un genre de projet comme ça, Donald? Ben,
c'est sûr que il y a un besoin. Il y a un besoin. Les entreprises du parc, les actuelles ou les nouvelles, ont un certain besoin. Ce qui a toujours été clair pour l'ASPE, puis ça avait été communiqué à Louis-Marc très tôt, parce que on ne voulait pas et on ne veut pas encore vendre de mètres carrés additionnels pour faire de l'enfouissement pur. Et puis, ce qu'on a fait, ben, ça crée de la pression un petit peu à Louis-Marc. Fait que Louis-Marc, ce qu'il a fait, puis il va nous en parler, mais c'est vraiment, c'est un site qui est réhabilité. Hein. T'sais, pour répondre aux besoins actuels avec quelques entreprises du parc, c'est un site qui avait déjà eu une vocation d'enfouissement industriel, qui a un certain passif environnemental, et puis que là, Gestion Toilbé en Fouibec vont comme réhabiliter pour le rendre compatible à faire ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire d'entreposer et d'être capable de ressortir. Parce que c'est sûr que les entreprises du parc, Nemaska Lithium pour ne pas les nommer, et il y en a d'autres, mais ce qu'ils doivent avoir, eux, c'est ce qui va sortir de l'usine, ça va sortir selon un flux constant. Ils ont certaines sources où est-ce que valoriser, ça veut dire que c'est des gens qui prendraient cette matière-là pour faire autre chose, mais ça ne veut pas dire que les deux usines vont être synchronisées. Donc, ils n'ont pas le choix d'avoir une capacité...
L'entreposage,
stockage. Parce que donc, une usine, hein, ça fonctionne 24 heures, 7 jours avec un rythme soutenu. Donc, ce que Gestion 3LB en Fouibec va faire va permettre au début du démarrage d'être capable d'entreposer parce que tout n'est pas attaché de par les industriels, mais pourra en ressortir. Mais aussi, ça va être comme un buffer, là, une zone tampon, une zone tampon entre le producteur de la matière puis celui qui voudra la valoriser. Fait que pour nous, c'est intéressant. On s'entend qu'il y a toujours des quantités qui sont minimes, mais toujours des quantités qui ne sont pas valorisables. Mais ceux-là, on essaie de les diminuer, puis on ne parle pas de centaines de milliers de tonnes. T'sais, on parle de tonnes par année qui sont difficilement valorisables, mais les centaines de milliers de tonnes qui rentrent là, il faut qu'ils puissent sortir un jour puis avoir une autre vocation.
En fait, c'est des résidus, c'est des productions industrielles. Fait que les matières sont toujours les mêmes, sont connues, puis effectivement, il peut y avoir des erreurs de batch qui apporteraient certaines quantités à rester sur place. Mais la valorisation, recyclage et même dans le choix du terrain fait partie d'eux, puisque c'est un terrain avec un certain passif où on veut s'y installer, sécuriser les lieux, mettre les installations. C'est sûr que c'est fait sous forme d'enfouissement parce que les volumes dont on parle sont assez grands, tu sais, qui peut être possible de... d'entreposer. Là, on parle d'à peu près 1 400 000 mètres cubes. C'est sûr que la beauté, l'objectif ultime du projet, c'est que lorsque les usines de la batterie auront fait le travail qu'ils auront à faire, c'est d'avoir un site presque vide. Dans le choix du site aussi, il y a peu de consommation, si on veut, de terrain. Comme Donald le disait, c'est un lieu qui a un passif. Oui, il y a une sécurisation, mais il y a très peu de consommation de nouvel espace qui n'a pas déjà été perturbé. Excusez, j'utilise perturbé. Je ne sais pas si je suis dans...
Non, c'est correct. C'est correct, les termes.
Je suis dans mes...
Puis tu sais, les gens qui font de la motoneige là, depuis longtemps, ils passent à côté de ce site-là. Là. Donc, les gens qui vont voir des étendues d'eau et tout ça, c'est carrément les terrains que Louis-Marc travaille à réhabiliter. Fait que, donc... Dans les années 70, il y a un certain usage qui aurait été différent si on faisait ça aujourd'hui, mais les règles de l'époque étaient ce qu'elles étaient. Fait que donc, nous, on accueille ça très positivement parce que c'est comme, il y a une solution réversible qui est faite par Enfouibec, mais aussi c'est ce terrain-là qui était un peu, on va dire les vraies choses, c'est un peu une épine dans le pied. Et puis que là, le modèle d'affaires dans Fouibec, Gestion 3LB, permet d'investir des sommes pour réhabiliter ces sites-là. Fait que donc, dans le modèle d'affaires, oui, OK, qu'est-ce que ça coûte aux entreprises pour venir utiliser des services? Mais en plus, dans leur projet, c'est inclus de réhabiliter cette portion de site-là, ce qui est génial.
Il y a même une portion du site qui, par sa géométrie et son emplacement, rend difficile... De mettre des opérations sur cette portion-là. On veut même renaturaliser cette zone-là qui fait 7 hectares quelques dans une zone, ce qui serait dans un monde idéal, d'avoir un marais, un milieu humide, t'sais, vraiment redonner un positif du côté de la faune et de la flore. que le projet apporte cette valeur-là.
Oui, puis on n'est pas là pour parler de la piste cyclable aujourd'hui, mais le tracé qu'on va dévoiler à un moment donné va passer pas très loin. Fait que donc, les gens vont être à même de constater de visu dans quelques années vraiment ce que Louis-Marc parle qui ferait comme renaturalisation.
Mm-hmm. Donc, avant de terminer, parce que le temps passe vite, j'aurais aimé quand même qu'on parle des synergies industrielles, soit présentes, soit à venir, par rapport à votre entreprise, bien, votre projet, quoi que ce soit. Bon, est-ce qu'il y a des opportunités de synergie industrielle?
Bien, effectivement, le projet GCB est né de ça. Tu sais, on regarde le déchet de un, mais dépendamment des lunettes qu'on met, ça peut être une matière première pour d'autres. Mm-hmm. Fait que c'est d'instaurer cette pratique-là. Puis qui sait jusqu'où elle peut se développer. Je pense qu'il y a encore un peu plus à faire à l'intérieur du parc. Bon, c'est peut-être un peu audacieux pour moi de le dire aujourd'hui, mais effectivement, dans une économie circulaire ou une économie où on a le moins d'impact sur nos milieux de vie.
Donc, Donald, c'est effectivement un projet avec de bons potentiels.
Oui, puis tu sais, pour tenter d'être le plus clair possible pour les auditeurs, là, tu sais, qu'on parle de valoriser, que ça devient un intrant d'un autre, je vais nommer des mots-clés, mais mm-hmm. dites-vous qu'il y a de la matière qui pourrait servir dans la composition du béton, donc d'autres qui pourraient servir dans la composition du gypse et d'autres trucs comme ça.
Valorisation agricole aussi,
ouais,
même nourrir la terre, certains produits qui pourraient...
Oui, c'est vraiment concret. T'sais. Donc, c'est pas juste théorique. Vraiment, les entreprises qui font affaire avec Gestion 3LB, ils font de la recherche pour savoir comment valoriser tout ça. Fait que donc, c'est juste qu'on n'a pas le choix d'avoir un site tampon pour le début de la production, mais aussi les variations de production qu'on pourrait avoir dans le temps. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis comme exemple, si on parle du béton, on sait qu'un mètre cube de béton, les cimenteries, ça émet beaucoup de GES. Fait que donc, si on est capable de faire un remplacement de certaines compositions du ciment par autre chose qui a peu ou pas d'émissions de GES, bien à chaque mètre cube de béton qu'on coule, l'empreinte GES est moindre. Et donc, c'est intéressant pour l'autre côté aussi, là.
Donc, on aurait eu beaucoup d'autres choses à jaser, entre autres de recherche et développement, expertise locale, mais sait-on jamais, peut-être un autre rendez-vous.
Comme Louis-Marc vient de Saint-Grégoire, il est juste à côté,
ben oui,
il va pouvoir venir revenir rapidement.
Il peut venir faire une sauce, n'importe oui. quand.
En allant dîner, je peux arrêter.
Exactement, toujours le bienvenu. Ben, merci beaucoup, Louis-Marc Bourgoin, donc, de Enfouibec, Gestion 3LB, d'avoir été avec nous pour nous expliquer, entre autres, ce beau projet, et aussi, Donald, comme toujours, d'avoir précisé et intervenu au cours de cette émission. Et on invite les gens à nous écrire. La semaine prochaine, on parle des laboratoires nucléaires canadiens avec Steve Plante et on va démystifier, entre autres, Gentilly 1. Donc, oui. Soyez des nôtres lundi prochain pour le Parc en 30 minutes. Écrivez-nous, posez vos questions et 819-519-9050 si vous le faites par texto, par téléphone ou encore, vous allez sur le site via.fm, onglet le Parc en 30 minutes et posez vos questions en cliquant sur « Posez vos questions ». Bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour le Parc en 30 minutes.